Aujourd'hui, c'est special.
Special.
Interview.
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 Interview sérieuse.
Sérieuse et special.
Interview qui fait mal avec des femmes stylées.
Ouais, ouais, ouais.
Un, deux, trois.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est une interview spéciale pour cette journée du 8 mars. Je suis dans le studio de Di avec Léone. Bonjour Léone.
Bonjour.
Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler d'un spectacle qui s'appelle « Ce qu'on raconte tout bas » que tu as construit, fabriqué avec deux autres personnes et qui est un spectacle de contes et de chansons poético-grivoises en langue parlée, en langue des signes et en musique. Donc voilà, je suis très contente de te recevoir ici. Donc on va pouvoir un peu parler de ce spectacle qui s'est tenu samedi 5 mars à la salle communautaire de l'ESCDD. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous dire qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais dans ce spectacle? Voilà, te présenter.
Alors, donc, je m'appelle Léone, le conte, et donc je suis conteuse. Et donc, dans ce spectacle, je raconte en grande partie les histoires. Il y a plusieurs contes qui s'enchaînent. Et donc, voilà, j'ai écrit et collecté, et je raconte les histoires de ce spectacle.
Tes deux autres compagnes de spectacle, est-ce que tu peux peut-être nous les présenter?
Oui, alors il y a Perrine qui est interprète en langue des signes et chansigneuse. Donc chansigneuse, ça veut dire qu'elle traduit les concerts, donc les morceaux, elle traduit les paroles des morceaux, mais aussi le rythme et la musicalité. Donc c'est une langue des signes qui est presque chorégraphiée. Donc c'est vraiment très très beau et c'est ça qu'elle utilise beaucoup dans notre spectacle. Et puis il y a Charlotte qui est musicienne et chanteuse et donc qui joue de la clarinette, du caron et qui chante puisqu'on a collecté quelques chants traditionnels qu'on a un peu adaptés spécialement pour le spectacle.
Et vous venez d'où toutes les trois?
Moi je viens du côté de Fontainebleau, Perrine aussi et Charlotte était à Fontainebleau mais elle s'est expatriée du côté du Jura maintenant.
Ok. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés?
Alors à la base, on est des amis, on se connaît parce qu'on est amis. Et avec Perrine, on a eu déjà l'occasion de raconter, elle en langue des signes et moi donc à la voix, des contes un peu érotiques. Et on avait fait ça justement pour la journée, une journée des droits des femmes il y a quelques années. Et on s'était bien amusé, le public avait bien apprécié et on s'est dit, tiens, pourquoi pas continuer sur ce chemin-là.
Et carrément monter un spectacle à plusieurs. Mm-hmm. Toi, dans ton parcours, comment est-ce que tu t'es approché du conte? Comment est-ce que ça t'est venu, ces envies-là?
Alors, mon père me racontait beaucoup, beaucoup d'histoires et qu'il inventait. Et j'ai grandi avec en écoutant les cassettes d'un conteur qui s'appelle Yannick Jolin. Donc je suis vraiment très fan de ce conteur-là. Et puis j'ai été guide longtemps et en fait être guide c'est raconter des histoires, animatrice et guide. Et donc finalement quand j'ai arrêté mon métier de guide, c'était un peu naturel d'aller vers les histoires puisque je racontais déjà.
Guide en montagne?
Non, guide conférencière.
Ok. Mmh. Et ça consiste en quoi?
C'est raconter l'histoire des lieux dans lesquels on se promène.
Et du coup, peut-être qu'on va essayer d'en savoir un peu plus aussi sur comment monter ce spectacle. Comment est-ce que vous avez créé ensemble et que vous avez réussi à allier un peu vos forces et vos envies pour arriver à faire un spectacle? Comment est-ce que ça a démarré?
Alors, assez simplement, je suis allée voir les filles en leur disant, on chante souvent ensemble, avec Perrine, donc on a déjà compté ensemble, si on essayait de faire quelque chose d'un peu plus long, simple, mais juste essayer. Là où on était ensemble, du côté de Fontainebleau, il y a pas mal de scènes ouvertes, il y a quelques festivals que les copains organisent, donc on avait des possibilités comme ça de se présenter sur scène et sans vraiment trop d'enjeux. Donc on s'est dit, allez, on essaye. Et puis on s'est donné quelques rendez-vous pour tenter de créer ça.
Et ça vous a demandé beaucoup de travail ?
Ouais, beaucoup de travail, plus que je pense que chacune pensait en fait. On a eu la chance d'être en résidence assez vite sous un chapiteau et donc de passer plusieurs semaines entières en résidence à réfléchir, à construire ce spectacle. Et à la fois, c'était très facile et très simple parce qu'on s'entend très bien et qu'on avait une idée très précise et commune de ce qu'on voulait vraiment transmettre. Et à la fois difficile parce que c'est des choses, plein de choses qu'on n'avait parfois jamais faites. Donc ça nous a confrontés à nos limites, à nos difficultés, au travail qu'il y avait à faire pour réussir à avoir quelque chose de présentable.
Et c'était quoi le difficile, l'alliage des différentes compétences un peu, comment les faire communiquer ensemble ou...
Oui, c'est ça, exactement, que chacune puisse trouver sa place, c'est la langue des signes, il y a des certaines contraintes en fait, parce que les sourds comprennent certaines choses qu'en langue parlée, on ne peut pas comprendre, et l'inverse aussi. C'est vraiment deux langues complètement différentes en fait. L'une s'exprime par image, surtout la langue des signes. Il y a très peu de métaphores en langue des signes. Donc c'était une grosse adaptation pour Perrine. Notamment, et puis aussi il y a des contraintes dans les positionnements parce qu'il faut qu'elle puisse être vue constamment, il faut qu'elle traduise absolument tout l'entièreté du spectacle pour que les malentendants puissent assister. Et puis pareil pour Charlotte, pour la musique, elle chante, mais parfois on ne savait pas est-ce qu'il fallait qu'elle sorte de scène, est-ce qu'il fallait qu'elle reste, quels étaient vraiment nos personnages. Et donc dernièrement, on revient de résidence là encore et on a pu un peu affiner nos personnages, justement, pour vraiment créer un fil rouge encore plus précis et avec plus de signification dans ce spectacle.
Et que chacune trouve sa place.
Exactement.
Et maintenant, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quelle forme il a, ce spectacle ? À quoi il ressemble ?
Alors, c'est un spectacle qu'on a voulu... un peu intime, en tout cas reproduire une ambiance d'intimité. C'est trois sœurs qui reconstituent une veillée de femmes. C'est trois sœurs qui racontent ce que leur grand-mère leur racontait tout bas quand les hommes n'étaient pas là. Donc il y a vraiment cette ambiance de feu de bois, ou en tout cas on a essayé de reconstituer cette ambiance et que le public fasse partie de cette assemblée dans la veillée. Et donc on raconte des histoires, on chante... et puis il y a ce jeu de complicité entre ces trois sœurs là qui se passent la parole, parfois en gestes, parfois en musique, parfois en paroles.
Et cette proximité, j'imagine qu'elle génère quelque chose avec le public. Est-ce qu'il y a une énergie particulière qui se dégage de cette ambiance là?
Alors c'est vrai que souvent après le spectacle, il y a comme un lien qui s'est créé entre les gens. Ça, c'est assez magique. Comme si on avait partagé, ça se fait souvent, ça arrive souvent dans les spectacles, mais comme si on avait partagé quelque chose de précieux. Et puis nous, on a aussi à cœur, dans ce spectacle, notre intention, c'est vraiment de transmettre des histoires qui risquent d'être perdues au spectateur qui est là ce soir-là. Et des histoires que nos grands-mères nous ont racontées et qu'on veut absolument... transmettre comme un cadeau ou quelque chose de précieux qui risque d'être perdu si personne ne les raconte.
Oui, donc c'est un petit trésor que vous essayez de léguer. Et alors, c'est des histoires qui ont vraiment été racontées par vos grands-mères ?
Non. C'est, en fait, c'est plutôt... ce spectacle, c'est un peu la transmission qu'on n'a pas eue. C'est un peu cette... On s'est posé la question, on s'est demandé si nos grands-mères nous avaient raconté des histoires, qu'est-ce qu'elles nous auraient raconté ? Et on a fait un peu un mix comme ça de nos grands-mères.
La personnalité de chacune
voilà,
des grands-mères.
C'est ça. Et donc on a choisi des histoires, mais surtout on s'est dit, mais nous, de quoi on parle entre nous? Qu'est-ce que nous, si on était grand-mère, qu'est-ce qu'on raconterait comme histoire aussi? Et on s'est dit qu'on parlait beaucoup d'amour, de désir, de sexe, et que sûrement nos grands-mères faisaient pareil.
C'est toi qui es allée chercher les textes, c'est ça? Et bah, comment t'as fait pour trouver des textes sur ces thématiques-là?
Alors, j'ai cherché dans les recueils de contes. J'ai des amies conteuses donc, qui m'ont un peu aiguillée. Il y a un recueil de contes qui s'appelle L'Étrille, qui est un recueil de contes allemand du XVIe siècle, dont j'ai tiré deux histoires, du coup. Alors, il y a une histoire dont j'ai changé la fin parce que la femme finit au couvent. Et ça me plaisait pas trop. On n'avait pas tellement envie de porter ça. Mais donc voilà, je me suis permise de transformer la fin. Mais c'est ça aussi l'avantage de l'oralité et des contes, c'est que il y a plein de versions et que parfois il faut se les approprier aussi pour pouvoir les ancrer dans un temps plus moderne.
Et c'est possible. Vous pouvez vous le permettre, c'est ça qui est chouette. Ces textes, voilà, parlent d'amour, de désir, de sexualité. Je crois que j'ai envie d'en savoir un peu plus encore sur ces textes-là. Comment est-ce que ces textes, ils viennent parler de ces thématiques-là?
Alors, c'est des textes qui souvent sont assez drôles. Enfin, en tout cas, je les ai choisis parce qu'on avait aussi surtout envie de se marrer. Enfin, clairement, ce spectacle, c'est aussi pour rire ensemble. Pour nous, c'est super important, l'humour. Et y a à la fois ce côté un peu rituel et sacré de la transmission, mais il y a aussi l'humour en même temps, parce que je crois qu'on ne peut pas s'en passer. Et donc, oui, les personnages, en fait, dans ces histoires, ne sont pas toujours dans des bonnes positions. Parfois, il y a une histoire où la femme, la princesse, est assez ridicule. Donc, c'est clairement pas, les femmes sont pas toujours en plein pouvoir dans ces contes. D'ailleurs, c'est vrai que dans les contes en général, c'est assez souvent assez sexiste finalement. Mais voilà, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait des petites revanches ou en tout cas que pas avoir honte de les dire, et que ça soit drôle et que ouais. Alors il y a différentes choses. Il y a un conte où par exemple c'est le sexe féminin et le sexe masculin sont des personnages qui parlent.
Et qu'est-ce qu'ils se racontent?
Alors ils se racontent une histoire de sel. Mais je ne peux pas tout dévoiler parce que si je dévoile tout, vous connaîtrez la fin.
Et c'est une surprise.
C'est une surprise, ouais.
Ok. Utiliser le ton de l'humour, c'est peut-être pour vous un moyen de jouer de ces positions-là, des femmes qui ne sont pas toujours hyper valorisantes ou valorisées. Est-ce que voilà, l'humour, ça permet aussi... ça, quoi, de se jouer de ces situations genrées.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. Et puis, en tout cas, l'idée qu'on a, nous, c'est surtout d'ouvrir, que ça puisse être support de dialogue et que s'il y a des stéréotypes dans ces contes, justement, parlons-en après, quoi. Nous, ce qu'on a voulu, c'est avant tout qu'il y ait cette idée de transmission de femme à femme, même si le spectacle est ouvert à tous, mais nous, en tout cas, on raconte ce que nos grands-mères nous ont raconté. Et puis après, parlons de tout ça avec plaisir, justement, et on sort en question.
Est-ce que, selon toi, ou selon tes connaissances, il reste pas mal de textes, justement, qui ont pu être écrits par des femmes et qui datent de cette époque, de l'époque médiévale et après?
J'ai peut-être pas une grande connaissance non plus, je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler. J'ai pas trouvé de conte, surtout du médiéval, écrit. En tout cas, souvent c'est anonyme déjà, on connaît peu les auteurs. Il y a une grande littérature érotique du Moyen-Âge. Ouais, vraiment, c'est assez chouette. Mais c'est un vocabulaire en vieux français et puis ça relève presque plus de la poésie. Mais oui, il y a vraiment une grande littérature érotique du Moyen-Âge qui est assez osée. Aujourd'hui, on dirait « Oh là là, dis donc, ils y vont fort
!» Ah ouais.
Ouais. Et ouais, ça parle de cons, enfin c'est assez, le vocabulaire est assez fleuri et c'est vraiment chouette. Mais bon, c'est pas, nous on utilise parfois des vieux mots, le vie, le braquemar. Et pour moi, c'était des mots qui me semblaient assez acquis dans le vocabulaire. Mais en fait, je me rends compte quand on joue les spectacles que plein de gens ne connaissent pas ce mot pour désigner le sexe masculin, le vie. Et donc, on a mis quelques mots comme ça anciens, mais on n'a pas fait le choix de garder cette poésie médiévale, et, etc. Parce que c'est, nos personnages aussi, ce sont des femmes de notre époque qui racontent les histoires de leur grand-mère avec leurs mots.
Et c'est un spectacle qui est aussi accessible aux enfants.
Non.
Non.
Enfin, il y a des enfants qui sont venus voir le spectacle. Il y a un enfant qui nous a dit oh, « c'était gros super !» Ok, alors on ne sait pas ce qu'il a compris dans ce spectacle. Peut-être qu'il n'a pas tout compris. Sûrement d'ailleurs. Mais donc les enfants aiment parce qu'il y a des chansons. Concernant les histoires, la compréhension ne doit pas y être. Quoi. Donc c'est un spectacle qui s'adresse surtout aux adultes. À partir de 10-12 ans, en fait, pour les enfants.
Ouais. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai lu à partir de 10 ans. Et c'est vrai que c'est assez jeune aussi.
Oui, parce qu'en fait, moi, dans le conte, j'utilise vraiment beaucoup de métaphores. Très peu de mots crus. C'est un spectacle poético-grivois, mais donc surtout poétique. Et le grivois, finalement, il est beaucoup dans... plutôt dans la langue des signes, parce que Perrine, en langue des signes, il y a peu de métaphores. C'est une langue qui est très figurative. Donc c'est vraiment des images, en fait, qu'elle elle signe. Donc c'est ça aussi, c'est là-dessus qu'on voulait travailler, sur ce décalage entre les métaphores de la langue parlée et les images très crues de la langue des signes, qui sont assez drôles, en fait. Ce décalage est vraiment drôle.
Toi, tu comprends la langue des signes aussi, tu la connais ?
Je ne la connais pas, mais à force de voir Perrine, et puis on signe un peu dans le spectacle, donc on a essayé aussi de faire en sorte que les différents médiums d'expression puissent tourner, puissent un peu être pas juste l'apanage d'une seule. Donc je commence à comprendre quelques petits trucs, mais je ne saurais pas suivre une discussion entière du tout.
Et c'était un choix qui vous tenait à cœur toutes les trois, que ça puisse être aussi visible, que ça puisse être un spectacle visible pour les personnes sourdes.
Oui, bah oui, du coup, surtout pour Perrine aussi. Et les personnes sourdes et malentendantes ont très peu accès au spectacle, finalement. Et il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas, elle aussi, avoir un spectacle qui parle d'amour et de sexualité et de désir. qui est un sujet qui, en général, nous touche tous et toutes.
Tout à l'heure, tu disais que c'est des histoires que, au final, vos grands-mères ne vous ont pas racontées.
Oui.
Pourquoi, selon toi, il n'y a pas eu cette transmission-là ?
En tout cas, pour ma grand-mère, c'était une taiseuse. On le dit dans le spectacle, et il n'y avait pas du tout cette tradition de la parole chez moi. Toujours pas, ni chez mes parents, ni chez mes grands-parents. Ni du côté de mon père, ni du côté de ma mère. Et je crois que je ne suis pas la seule. Quand j'en parle, je me rends compte qu'on est assez nombreux dans ce cas-là. Et on a senti que justement, il y avait ce manque. Il y a eu quelques générations où il y a eu un manque de transmission, un manque de mots sur les choses qui ont été vécues. Alors que, par exemple, du côté de Perrine, sa grand-mère, elle raconte beaucoup. elle raconte des anecdotes, en tout cas, qui lui sont arrivées aussi, beaucoup en lien avec la sexualité et le désir et l'amour. Et donc ça, c'est assez drôle de voir ce décalage en fonction des familles.
Qu'est-ce que ça vient permettre d'une certaine manière de se raconter ces histoires de humain à humain, enfin de humaine à humaine? Qu'est-ce que selon toi ça peut faire émerger?
Bah, moi j'ai la sensation d'avoir manqué de ça, de cette transmission, et d'avoir manqué de ce lien de femme à femme, cet accompagnement en fait dans ma vie, de ce passage de petite fille à femme. Je ne l'ai pas eu du tout et ça m'a vraiment manqué. Quelque part, ce spectacle, c'est aussi pour libérer cette parole-là. Alors, c'est pas une transmission de petite fille à femme, c'est encore un peu différent. Mais en fait, on voulait un peu libérer cette parole-là pour pouvoir justement, en tout cas, faire un support de discussion, pour qu'on puisse dire, oui, cette parole, cette transmission nous a manqué. Comment on fait pour la recréer aujourd'hui? Qu'est-ce que moi je fais, que les spectateurs en fait puissent se questionner sur moi, qu'est-ce que je vais raconter à mes enfants, qu'est-ce que je vais transmettre. Là, j'ai reçu quelque chose aujourd'hui, mais moi, qu'est-ce que je vais transmettre?
Oui, c'est ça, c'est que ça vient questionner au final les personnes qui vont voir et entendre ce spectacle. Et peut-être que ça va un peu influencer et que ça va leur donner envie de transmettre à leur tour.
J'espère, en tout cas. Je ne sais pas, mais j'espère.
En fait, j'ai l'impression que généralement, on perd ce travail de l'oralité, qu'il est moins présent. Est-ce que, puisque c'est la journée du 8 mars, est-ce que ce travail oral, est-ce que tu penses qu'il est brimé, en quelque sorte volé par un système, et notamment le système patriarcal? Comment est-ce que tu vois un peu ça? Comment est-ce que tu trouves une cause, ou en tout cas un effet peut-être de quelque chose? C'est pas clair.
Si, je réfléchis. Je pense que ouais, c'est très complexe, mais je pense que j'ai pas de... Évidemment, j'ai pas de réponse, mais... Les femmes font partie de ce système. C'est comme si, la parole des femmes avait été dévalorisée, mise de côté, et qu'il n'y avait plus d'intérêt, il n'y avait plus de valeur à cette parole. Quand je pense à ma grand-mère et à ce qu'elle m'a raconté de sa vie, je me rends compte qu'à aucun moment, elle a pu exprimer... ni ses besoins, ni ce dont elle voulait. Elle a juste fait que survivre et s'échapper pour juste qu'on la laisse tranquille. s'échapper de d'une autorité. En fait, à chaque fois, elle échappait à une autorité, l'autorité du père, pour se mettre sous l'autorité de son mari, ou avant, c'était l'autorité de sa mère. Enfin, elle passait juste d'une autorité à une autre. Et donc, elle n'a pas eu cette éducation de la parole, alors que je sais qu'il a existé plein d'autres endroits et plein d'autres temps où les femmes ont pu s'exprimer. Et c'est aussi, je ne sais pas comment ça se fait, mais je pense que c'est le rôle des femmes de se réapproprier ça aujourd'hui et de le revendiquer simplement.
Est-ce que tu trouves que ça se fait de plus en plus? Est-ce que tu as l'impression que ça revient ou qu'on réinvestit ce champ-là de la parole?
Oui, déjà ici, à Die et dans les environs, j'ai rencontré plein de personnes avec ce genre de projet que je trouve génial et je trouve ça super de pouvoir partager ça, cette envie. Du côté de la Seine-et-Marne, je vois beaucoup moins d'initiatives de ce côté-là. Mais bon, j'imagine que ça va finir par germer. Ouais, ici particulièrement, c'est sûr. Mais en région parisienne, alors c'est pas représentatif de la région parisienne, la Seine-et-Marne, mais j'espère en tout cas, nous aussi, qu'on puisse donner une petite impulse à d'autres idées pour exprimer ça.
Vous réussissez un peu à faire des représentations en ce moment? Enfin, est-ce que c'est un spectacle qui tourne un peu?
Ouais, on a pas mal joué. On n'a pas. Alors c'est ça un peu la magie avec ce spectacle, c'est que tout est simple pour l'instant. les gens, en fait, on joue beaucoup chez les gens. Parce que justement, cette forme du conte et puis la reconstitution d'une veillée intime, ben, ça se prête vraiment à jouer chez les gens. Donc on a fait des rencontres absolument géniales. On a été en Bretagne, en Normandie, en Charente, en Seine-et-Marne, bien sûr aussi. On reçoit toujours un accueil. On est allé dans le Jura aussi. On reçoit toujours un superbe accueil. Et jusque-là... Tout se déroule assez facilement. Donc, on espère que ça continuera.
Et dans le Diwa, vous avez d'autres dates, peut-être? Vous imaginez d'autres représentations?
Alors, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Mais avec plaisir, pour venir rejouer chez les particuliers ou dans les salles ou dans les festivals. Ouais.
Merci beaucoup à toi, Léone, d'être venue... Aujourd'hui, donc nous présenter ce spectacle, ce qu'on raconte tout bas. Est-ce que peut-être vous avez des éléments de communication pour des personnes qui voudraient voir, vous faire venir
Oui, on a une page Facebook qui s'appelle « Ce qu'on raconte tout bas ».
Ok, et si on va donc sur cette page, on peut vous joindre et...
Oui, et puis vous aurez toutes les dates, nos prochaines dates de représentation.
Bonne journée à tous et à toutes.
Merci.
Vous écoutez le 107.5 et le 101.7. Nous sommes toujours le 8 mars.